que le temps passe vite, hein. On est déjà le 13 janvier. J'étais pas là la semaine dernière. Et c'est vrai que les années, ça passe à une vitesse très très vite. Est-ce que vous vous rappelez ce que Baptiste avait dit il y a 2 ans? Comme mot d'ordre. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. Est-ce que depuis ces 2 ans, avons-nous grandi en sagesse? Avons-nous fait des progrès dans notre vie de disciple? Les parents qui ont des enfants, ils les envoient à l'école, et chaque année, si l'enfant travaille bien, il passe à une année supérieure, il apprend, et s'il arrive bien, et puis s'il a les facilités pour apprendre, il va aller au collège, au lycée, peut-être en université. Donc, ils vont apprendre. Apprendre, et on peut dire, ils ont fait des progrès. Pour certaines disciplines, c'est aussi faire des progrès, mais des fois, si on se relâche un petit peu, on régresse. Je pense à la musique. On peut faire des progrès, mais si on arrête, ça va être dur à reprendre. On ne sera pas au même niveau. Pareil au sport. Mais dans la vie spirituelle, dans le domaine spirituel, tout dépend de mon application, de mon engagement. Alors c'est sûr que nous, nous sommes que des hommes. En tant que responsable, on essaye de transmettre la parole le plus fidèlement possible. On n'est que des hommes. Et on essaye de donner la nourriture qu'il faut. Si possible. Et on peut dire que dans l'Église, il y a ce privilège quand même que 2 fois par semaine, soit on reçoit un enseignement le dimanche matin ou le mardi soir à l'étude biblique. Et c'est vrai que nous avons vu beaucoup de choses. Je ne vais pas remonter 25 ans en arrière depuis que je suis là parce que ça remonterait à beaucoup. Mais juste une petite année, on a vu plusieurs messages. Sur des livres comme sur les lettres de l'Église, les 7 lettres des Églises de l'Apocalypse, le livre des Éphésiens, Romains, Jérémie, 1 Corinthiens, l'Évangile de Marc et la première de Jean en étude biblique. On a vu des thèmes aussi, comme 2 Timothée 3, 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et à chaque fois il y avait pour utile. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. On a vu aussi des messages, être à côté de la plaque. Aussi le bon samaritain. Nous avons vu aussi sur la gloire de Dieu, sur le Notre Père, avec porter Christ comme Marie. Nous avons vu aussi ce passage qui a été cité ce matin dans 2 Pierre, hein, à cause de cela, faites de tous vos efforts pour joindre, alors parce qu'on a participant de la nature divine, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amitié fraternelle à l'amour. Nous avons vu aussi que, en effet, une grande source de gain, que la piété avec le contentement. Sans compter les plans de lecture qui sont distribués, en espérant que chacun puisse au moins avoir un culte personnel, sans compter le libérateur. Donc, vous voyez, on essaye de mettre toutes notre énergie pour essayer de transmettre et pour grandir. Alors, si on fait le bilan de nos vies, de notre connaissance, est-ce que j'ai progressé ou est-ce que le constat est nul? Cela n'a rien changé. J'ai même l'impression d'avoir régressé. Ça peut arriver. C'est pas nouveau. Déjà, à l'époque de l'Église, au début de l'Église, il y avait ce problème-là. Parce que celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il a dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, le ABC. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais là, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien ou mal. C'est vrai aussi que je peux connaître les choses. Je peux avoir une connaissance plus grande. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a changé à ma vie pratique ? Ma connaissance, comme dit, il y a un verset, la connaissance enf, mais l'amour édifie. Et là, il y a encore un autre passage, on se trouve dans Jacques, où il dit, « Cherchez mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Je peux écouter la parole, mais avec mes raisonnements, en fin de compte, c'est presque inerte. La connaissance ne grandit pas et ne se met pas en pratique dans nos vies. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Où j'en suis ? Bonne question. Surtout que ce matin, ça tombait bien, Dieu nous a tout donné. Nous sommes participants de la nature divine. Une missionnaire qui se trouve au Niger a envoyé ses vœux à sa famille, qui est chrétienne. Et son mot d'ordre pour cette année, c'était « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Un bon objectif pour notre vie. Ce passage se trouve dans l'épître de Jean. L'évangile de Jean. Et on voit que Jean a baptisé, puis à un moment donné, il y a eu un problème. C'est que les disciples de Jean, ils disent, celui à qui tu as rendu témoignage là, ben, il y a plus de gens qui vont vers lui, hein. Et qu'est-ce que Jean répond ? Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qu'il a été donné du ciel. Vous-même, mes témoins, que j'ai dit que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. J'en ai et heureux. Pourquoi ? Et il le dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jean a une bonne attitude. Ce qui compte pour lui, c'est que tous se tournent vers Christ et qu'ils le suivent, et pour sa gloire seule. C'était son objectif. C'est sûr que Jean-Baptiste ne savait pas ce qui allait lui arriver par la suite. Ce n'était pas évident. Parce qu'après, il a eu la prison et la mort. Alors, pour notre vie, un commentateur a écrit, Jean savait ce qui était la place qui lui avait été assignée. Tout son but était de glorifier Jésus. C'est la mission de tous les disciples de Christ. Notre rôle est de refléter non notre propre lumière, mais celle de Christ. Parmi les hommes, nous devons consentir à n'être rien pour que Christ soit tout. Je répète, nous devons consentir à être rien pour que Christ soit tout. Alors vous allez me dire, il y a un paradoxe là. Tout à l'heure, tu as commencé à parler en disant, il faut faire des progrès. Et maintenant, tu dis, il faut diminuer. Ah oui, on progresse en diminuant. C'est un paradoxe, ça. Alors, on va parler de ça ce matin. Parce que c'est aussi ça qu'on a besoin de recevoir comme enseignement. Parce qu'il y a des fois, il y a des blocages. On peut connaître beaucoup de choses, mais on refuse de diminuer. Et diminuer, c'est accepter la mort. Muret dit ceci, « Ce n'est plus moi, c'est Christ. » Et c'est en référence avec Galates 2:20. Voilà le repos de la foi. L'inconverti dirait, ce n'est pas Christ, c'est moi. Au début, encore chancelant, le chrétien dit, c'est moi et Christ. Moi d'abord et Christ pour combler mes déficits. Plus avancé, il dira, c'est Christ et moi. Mais une fois mort à Christ, avec Christ, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ seul, Christ tout. Il en a fini avec ses œuvres, c'est le repos de la foi. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Mais bien souvent, et c'est pour ça que dans notre vie chrétienne, on ne progresse pas, parce qu'on ne veut pas mourir. Et pourtant, il faut que le grain meure pour qu'il porte beaucoup de fruits. Et c'est le refus, parce qu'on tient trop à notre vie. On le chérit tellement, notre moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Roche-Dieu dit ceci, il faut donc, si je ne veux pas que mon vieil homme reprenne le dessus, que je diminue. Ce qui n'aura lieu que si Christ prend de plus en plus toute la place, la haute main dans ma vie. Vous savez, On a étudié l'épître aux Corinthiens. Je crois qu'il lui reste encore un chapitre. Hein. Au début de ce livre, Paul a dit à cette église, il dit, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance et du témoignage de Christ, ayant été solidement établis parmi vous. Voilà, vraiment, vous avez reçu et puis un enseignement solide, toute la richesse. Et en plus, vous avez reçu, il ne vous manque aucun don. Waouh ! Et pourtant, trois chapitres plus loin, au troisième chapitre, au chapitre 3, à partir du verset 1, et je vais le lire en paroles vivantes. Regardez ce qu'il dit, et en écoutant, c'est là qu'on peut voir notre problème, qui nous empêche bien souvent de grandir. Cependant, frères, il ne m'a pas été possible de vous communiquer cette vérité spirituelle, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. J'ai dû vous traiter en être dominé par les réalités terrestres, vous parler sur un plan purement humain, parce que vos relations avec le Christ, vous en étiez encore au stade de nourrisson. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler. Alors, que dis-je ? Aujourd'hui même, vous êtes encore incapable de la supporter. Pourquoi ? Parce que vous vivez toujours sur un plan essentiellement terrestre, obéissant aux impulsions de votre être naturel. Ah, voilà, je répète une deuxième fois. En obéissant aux impulsions de votre être naturel. Qu'est-ce que j'entends par là ? Lorsque vous jalousez les uns les autres ou que vous fractionnez en parties opposées, ne montrez-vous pas que vous vivez comme des hommes livrés à eux-mêmes ? Tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions, des querelles, n'est-ce pas la preuve que vous vous comportez comme tout le monde, comme des hommes irrégénérés, comme les gens du monde ? Et pourtant, un chrétien, il est quoi ? Un chrétien, il est une nouvelle créature. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu la vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons reçu l'Esprit. Qu'est-ce qui fait que nous grandissons pas, que des fois on se comporte comme des païens? Pourtant on entend les messages et ça change rien, parce qu'on ne meurt pas à nous-mêmes. Et pourtant c'est ce qui s'est passé réellement, mais comme il est dit dans Romains 6, et on le cite souvent quand on baptise des personnes, nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est fait, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi ce décalage entre la parole enseignée et notre propre vie. Parce que je veux vivre. Mais je veux vivre de ma vie, de ma propre vie. Je ne veux pas mourir. Je veux qu'on fasse attention à moi. Oswald Chambert dit ceci: plus je pense à moi, moins Dieu peut se servir de moi. Je répète, plus je pense à moi, et moins Dieu peut se servir de moi. Je vous relis Galates 2:20 en paroles vivantes. Désormais, la mort de Christ en croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui. Et si je continue à vivre, c'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et qui reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur la terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Alors concrètement, je vais donner des exemples. Imaginez-vous un couple. Un des couples dans le couple, il y a quelqu'un dans le couple, un des conjoints, je nomme ni mari ni femme, comme ça personne ne se sent visé, dit une parole qui blesse. J'ai deux façons de réagir. Une façon naturelle ou une façon spirituelle. La façon naturelle, c'est bouder dans son coin. Et ça dure autant de temps que ça veut. Ou alors c'est réagir avec colère, mais tu te rends compte, et puis dire d'autres choses qui font encore plus mal. Alors là, c'est bon pour casser le couple. Ou alors, pour un temps, ça va pas aller bien pendant un certain temps. Ou alors la façon spirituelle. Si sa réflexion est juste, bah c'est reconnaître ses torts et demander pardon. Aïe. Ah oui. Demander pardon. Et si c'est pas juste, bah le dire avec douceur et avec bonté en disant je sais pas. Et puis si la personne insiste, bah c'est supporter avec amour. C'est laisser Christ vivre. Au lieu que ça soit moi. C'est un exemple. Mais on pourrait prendre plein d'exemples comme ça. Vous savez, c'est vrai que dernièrement, il y a eu l'étude sur 1 Corinthiens 13. Alors c'est dur, face à l'amour, et surtout devant 1 Corinthiens 13, et on se dit, oula. Alors, je vais vous dire toute chose, je vais peut-être vous choquer, mais il y a une prière qui ne se trouve pas dans la Bible. Seigneur, donne-moi plus d'amour. Je vous choque là. On voit Paul prier pour que l'amour augmente pour les Philippiens ou les Phéniciens, pour qu'ils progressent. Mais ce n'est pas marqué. Pourquoi ? Je vais vous dire parce que c'est un peu un problème ça. Parce que si Dieu ne me donne pas l'amour, ça va être sa faute. Mais il nous a déjà donné l'amour. Il nous a déjà tout donné. Il l'a redit ce matin. Il nous a déjà tout donné. Il dit, or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ou alors, Jésus lui-même, il dit, demeurez dans mon amour. Ou même, car l'Esprit de Dieu nous a donné, nous rend pas timides, au contraire, son amour nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'aime pas alors? Ah, parce que je laisse pas Christ vivre en moi. Parce que c'est moi. Ah oui. Au lieu de dire, oui, j'ai pas cet amour-là. Pardon, Seigneur. Parce que mon cœur est dur et méchant. Aïe. Mais faut reconnaître ce manque d'amour. Mais Seigneur, tu m'as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Seigneur, je veux vivre de cet amour. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser l'Esprit de Dieu dominer dans ma vie, me diriger, me conduire. Donc le Seigneur nous le donne, cet amour. Mais c'est nous qui freinons. Oui, mais il m'a fait ça. Ah, voilà. Ça veut dire quoi? Un manque de pardon? Encore un manque d'amour? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Oui, il y a des réponses à tout, à la parole. Donc, il y a un manque de pardon? Ah ben alors, dis-le au Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Et pourtant, lui, il nous a vraiment pardonné. C'est pareil pour la patience. Pas marqué, Seigneur, donne-moi plus de patience. Parce qu'il nous l'a donné aussi. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la douceur. Mais c'est encore moi qui prenne. C'est moi qui suis impatient. Et il faut que je confesse à Dieu, pardon, Seigneur, parce que je suis impatient. Vous voyez, d'un côté, la vie chrétienne, on grandit en diminuant, dans un sens, c'est voilà, on reconnaît, il y a une repentance et une foi en même temps. Je reconnais mon manque, je reconnais, mais Seigneur, je me saisis de cette patience. On pourrait aller dans plusieurs. Je peux être frustré. C'est vrai, il y a des choses qui peuvent nous frustrer dans la vie. Soit je reste avec ma frustration, ou soit je l'abandonne au Seigneur et je dis, Seigneur, ouais, je suis frustré. Mais j'ai tout en toi. Waouh ! J'ai tout pleinement en toi. J'ai la vie en toi. Je peux être humilié. Ça nous arrive d'être humilié. Mais vous savez qu'être humilié, c'est bon. Eh ouais. Ça fait mal. Parce que l'orgueil en prend un coup. De toute façon, on est tous orgueilleux par nature. Hein. Quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas orgueilleux, c'est que il est vraiment aveugle sur lui-même. Mais l'humiliation, c'est vrai qu'on n'aime pas. Alors, c'est vrai qu'en étant humilié, je peux rester dans mon humiliation et puis rester comme ça. Et pourtant, celui qui a écrit le psaume 119, il dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. » Pour Pierre, il a été humilié, mais c'était très bien pour lui. Il fallait qu'il soit humilié. Quand avant il disait, mais Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison, je suis prêt à mourir, je ne suis pas comme les autres. Ah oui, quand il a renié le Seigneur, ah, il a pris une sacrée claque là. Mais c'était bon pour lui. Et vous savez, tout ce que le Seigneur fait dans nos vies est bon. C'est vrai que ce n'est pas évident. Et il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Je peux être jaloux. Ben là, il faut que je me repente. Pourquoi je vais être jaloux? Hier, un détenu à la prison, il était en colère. Je comprends sa colère dans un sens, et je lui ai dit, parce qu'il espérait, il est passé devant une commission, vous savez, quand ils ont fait une certaine partie de peine, plus de la moitié, ils peuvent avoir une libération conditionnelle. Ça veut dire libérer avec... il faut qu'ils aient un travail, ça peut être avec un bracelet électronique, bref. Et il est passé en commission et il a fait plus que son temps parce que, d'ailleurs, il a fait 14 mois et il a 19 mois. Donc, il espérait. Et il n'a pas été libéré. Et il était en colère et bon, en discutant, bon, on voit peut-être à cause d'une personne. Et je pense que cet homme est en tout cas, il écoute la parole, il y a quelque chose qui se fait. Je lui dis, écoute, tu sais, bon, je dis, c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on espère et que ça vient pas. Mais je lui dis, mais soit il reste dans sa colère, ou soit, tu reconnais que Dieu est ton maître, qu'il est souverain dans ta vie, qu'il tient tout entre ses mains, que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors, alors je dis, peut-être que Dieu a un plan pour toi, même en prison. Peut-être que par ton témoignage, quelqu'un peut se convertir. Alors c'est sûr que c'est pas évident. Mais est-ce que c'est mieux qu'il reste dans la colère jusqu'au mois d'avril? Ou est-ce qu'il peut être dans la paix en disant, Seigneur, je ne comprends pas, mais je me fie à ta souveraineté et je mets ma confiance en toi. Voilà un exemple pratique. Comment grandir? Peut-être ce matin, tu as peut-être des difficultés à cause d'une personne. Soit tu restes dans ta colère et t'en veux à la personne. Ou soit tu crois, tu te reposes entre les mains du Seigneur en disant, Seigneur, toi tu es au-dessus même de cette personne. Tu es au-dessus. Même si cette personne a mal fait, même si cette personne elle est méchante, même si cette personne dit des âneries, même si... Seigneur, toi tu es au-dessus. Et je me repose en toi. Tu permets ça dans ma vie, je ne comprends pas. Mais je l'accepte. Parce que je veux diminuer et je veux que ce soit toi qui vives dans ma vie. Je veux réagir comme toi tu réagirais. Et vous savez, je vais vous citer 4 passages dans la Bible qui nous donnent ce processus où il y a les épreuves, mais que les épreuves sont là pour que nous grandissions. Je prends le premier passage qui se trouve dans Romains chapitre 5, à partir du verset 3. Et c'est dans Parole vivante que je le lis. Romains 5, versets 3 et 4. Je vous dis ça pourquoi? Il y a un livre qui est très bien, je vous l'avais déjà recommandé, Changer vraiment et comment. Et dans ce livre, il dit que pour porter des fruits, il dit bien souvent, vous savez, les fruits dans notre jardin, ils poussent à quel moment? Il faut qu'il y ait le soleil, il faut que ça chauffe, hein. Eh oui. Qui montre que les difficultés, hein, en sachant que Dieu fait pousser en fin de compte ses fruits dans nos vies, des fois dans les épreuves. Et c'est pareil dans la nature. Il faut de la chaleur pour que les fruits puissent pousser. Voilà ce qui est dit. Alors, 4 exemples. Romains 5, versets 3 et 4, en parole vivante. Mais il a plu dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et notre détresse, nous triomphons, car nous savons qu'elle contribue à notre bien. Pas évident, hein? Mais l'apôtre Paul dit, voilà, c'est vrai. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve. Votre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Un deuxième passage se trouve dans Jacques, chapitre 1, versets 2 et 4, et encore en parole vivante. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Waouh ! Estimez-vous heureux ! Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à une joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Que votre patience se manifeste dans votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Un autre passage, 1 Pierre chapitre 1 verset 6. Il y a eu la fin qui a été lue, mais juste un petit peu avant, il y a eu des versets qui précèdent, qui dit « C'est là ce qu'il faut, c'est là ce qui fait votre joie, quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Et le dernier exemple, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Paul avait une écharpe dans la chair. Et il est dit, il se trouve dans 2 Corinthiens, il dit « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps. » C'est second 21. « Un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'orgueillir. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Waouh ! Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. Ah, l'apôtre Paul qui dit, maintenant, ah, mais je me plais moi. Ah oui, je me plais dans les faiblesses, dans les insultes. Waouh ! Attends, tu exagères Paul là. Dans les détresses, dans les persécutions, il se plaît là-dedans. Dans les angoisses pour Christ. Mais, attends, mais... Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Waouh ! On n'aime pas être faible, comme on n'aime pas mourir à soi. Et pourtant, c'est là la vie de victoire. C'est là le vrai repos. Fin de compte, le Seigneur a tout donné qui contribue à la vie et à la piété. Il nous dit d'être rempli du Saint-Esprit, d'être rempli de lui. Vous savez, quand je pense à certaines situations, il y a des fois je suis triste. Parce que je me dis, mais ça manque parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est parce qu'on vit trop de nous-mêmes. C'est nous qui faisons obstacle à l'œuvre de Dieu. C'est pas Dieu, hein. C'est nous. C'est notre faute. Et quand on est conscient de ça, il faut se repentir, dire Seigneur, pardon. C'est moi qui mets un frein, c'est moi qui entrave ton œuvre. Je veux que ça soit toi. Parce que le but de l'Église, c'est que Christ soit glorifié. Pas un homme, pas une étiquette. faut que ça soit lui qui soit glorifié. Si Christ n'est pas glorifié dans cette église, ça sert à rien, autant la fermer, hein. Et si Christ n'est pas glorifié dans nos vies, faut que, voilà, il faut même plus que je diminue, il faut que je disparaisse. Il faut que ce soit Christ qui soit là, qui soit vu. Et le Seigneur nous donne ce secret, et il l'avait donné dans Jean 15. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons prier.